Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Clément Salazar, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Suite de notre série consacrée à l'Europe, l'un des grands thèmes autour desquels s'est clivée la campagne du premier tour de cette présidentielle française et qui ne manquera pas d'opposer les deux candidats qualifiés pour le second tour, nous nous intéressons cette semaine aux lignes de fracture qui ont divisé ces candidats après avoir évoqué la crise migratoire et les menaces qu'elle fait peser sur la libre circulation et l'unité européenne. Nous allons nous pencher sur la citoyenneté européenne, sur ses valeurs et sur les frontières qui la délimitent. Citoyenneté, valeurs, frontières, jusqu'où va l'Europe? C'est la question qu'on se pose ce matin.
La séparation en deux du continent et avec elle de ses habitants est terminée, c'est irréversible. Les peuples de l'Est et du centre de l'Europe appartiennent désormais à la famille européenne.
Pour nous, ça vient peut-être un peu tard, mais pour nos enfants, c'est un merveilleux avenir qui s'annonce.
Le plus important, c'est que désormais, il n'y aura plus jamais de violence dans cette nouvelle Europe. La violence est finie.
Mais sinon, oui, c'est une chance parce qu'on va pouvoir voyager plus tranquillement, en fait, sans avoir de 1000 contrôles à la douane et tout ça.
On entendait notamment la voix de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl se réjouissant de cet agrandissement qui, selon lui, garantit la paix, la prospérité dans cette nouvelle Europe. La décennie 2000 fut décisive du point de vue de l'élargissement. La date du 1er mai 2004 est une date fondatrice pour la construction de ce... avec ces 10 nouveaux pays qui rejoignent l'Union, les 3 pays baltes, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte. 3 ans plus tard, c'est au tour de la Roumanie et de la Bulgarie de rejoindre l'Europe, avant le dernier arrivé, la Croatie en 2013. L'intégration de ce petit pays des Balkans vient clôturer une vague d'élargissement qui a quasiment doublé le nombre de pays membres au sein de l'Union européenne en une décennie. Pour l'Europe des 15, devenue l'Europe des 28, bientôt l'Europe des 27, c'est l'heure des grands défis. La crise de 2008 survient alors que l'euroscepticisme s'étend aux pays fondateurs et que les populismes trouvent un écho croissant au sein des peuples européens de plus en plus méfiants à l'égard de la mondialisation. Face à un édifice européen qui se fissure, les nouveaux pays membres sont accusés de bloquer le processus de décision et de plomber l'économie communautaire. En arrivant à la tête de la Commission européenne en 2014, Jean-Claude Juncker annonce donc qu'il n'y aura plus d'élargissement avant 2020. Entre-temps, le Royaume-Uni a déclenché le Brexit et le spectre d'un effet domino a achevé de disqualifier l'idée même d'élargissement malgré les efforts accomplis par 6 pays des Balkans en vue d'une adhésion. On en parlera d'ailleurs de ces Balkans. L'élargissement à l'Est est-il responsable de la crise que traverse l'Europe? L'Union européenne a-t-elle perdu son identité à mesure qu'elle intégrait de nouveaux membres? La solution à la crise passe-t-elle par une Europe à plusieurs vitesses dont le principe est martelé depuis un moment maintenant? Peut-on, doit-on renforcer la citoyenneté européenne instituée par le traité de Maastricht en 92, précisée par les traités d'Amsterdam en 97 et de Lisbonne en 2007. Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité 2 personnes. D'abord avec nous ici en plateau, Clémentine Forissier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédactrice en chef de Contexte, un journal de politique française et européenne. Avec nous également, en duplex depuis Strasbourg, Teresa Pulano, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment également d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse à l'Institut d'études européennes de l'Université de Bâle et puis auteur de cet ouvrage « La citoyenneté européenne, un espace quasi-étatique » aux presses de Sciences Po, c'était en 2014. On va commencer peut-être sur une petite analyse quand même de ce premier tour de l'élection présidentielle. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe a constitué, c'est vrai, l'un des point de fracture de cette campagne présidentielle, Clémentine Forissier, et le résultat du premier tour, qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifier, montre combien cette opposition aujourd'hui est profonde. On a la candidate du repli, du souverainisme, de la fermeture, qui est opposée au candidat de la mondialisation, qui en accepte la réalité, les enjeux, et qui souhaite inscrire finalement le destin de la France dans celui de l'Union européenne, même si Emmanuel Macron, on y reviendra, souhaite quand même réformer cette Union européenne. Il était vu, en tout cas, peut-être comme le plus européen finalement des candidats. Une France forte dans une Europe forte, avait-il dit lors du débat télévisé. Clémentine Forissier, dans quelle mesure est-ce que vous diriez que l'attachement d'Emmanuel Macron finalement à l'Europe et à l'Europe d'aujourd'hui explique son succès? Est-ce que finalement sa posture de défense de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, même s'il souhaite en la changer en partie, explique en partie le fait qu'il soit arrivé en premier dans ce premier tour?
Je suis pas absolument convaincue que ce soit la raison principale de son succès aujourd'hui, mais ce qui est quand même frappant, c'est que jusqu'à présent, l'Europe a toujours été un sujet repoussoir dont les hommes politiques ont peur. Et si on se souvient de François Hollande en 2012, il avait un seul mot à la bouche, c'était réorienter l'Europe, ce qui n'est pas du tout le discours d'Emmanuel Macron, qui avait un discours beaucoup plus positif sur l'Europe, qui assumait en fait son existence et qui finalement, d'une certaine manière, se plaçait un peu dans la lignée des pères fondateurs, qui étaient là avec une envie de construire ensemble, ce qui n'est pas du tout le discours donc habituel. Hollande avait ce discours-là, Fillon avait le discours de l'Europe, ça doit être la France en grand, donc c'est nous qui allons imposer aux autres notre vision du monde. Sarkozy en 2012 avait, et en 2007 pareil, avait un discours sur l'Europe qui était très en opposition et sur le thème on va imposer notre vision. Donc on a vu un vrai changement de discours et c'était assumé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est arrivé en tête malgré ce discours assumé, j'aurais presque dit. Donc ça laisse des opportunités pour la suite, même si effectivement, mais ça je pense que tout le monde est d'accord, de toute façon l'Europe est une organisation en construction et il y a évidemment des choses à changer, comme il y a des choses à changer en France.
Teresa Pulano, c'est vrai que c'est une évolution importante, ce discours assumé sur l'Europe, même si bien sûr, et on va y revenir sur les quelques-unes en tout cas des propositions s'agissant de l'Europe d'Emmanuel Macron, mais est-ce que vous diriez qu'il est sorti en tête du premier tour parce que aussi, en réalité, les Français sont peut-être plus attachés à l'Union européenne qu'on voudrait le dire parfois, malgré évidemment, bien sûr, les critique très récurrente. Teresa Pulano, comment est-ce que vous voyez les choses?
Je suis plutôt pessimiste, je dois dire. Je pense en général, il y a une question. On est dans une phase de crise économique et politique et de crise du projet européen. Dans ces phases de crise, ce n'est pas seulement important la position des forces critiques de droite ou de gauche, mais aussi la position des élites. C'est très important pour sortir des crises et ça a été le cas historiquement. Or, je ne suis pas certaine que Macron ait la conscience de cela. Et aujourd'hui, sur Le Monde, il y a un article de Dominique Reynier qui va dans cette direction. Est-ce que Macron a compris les enjeux? Est-ce qu'il a compris le danger d'avoir Marine Le Pen au deuxième tour? Est-ce que il a évalué aussi ce que le 19% de voix pour Mélenchon veut dire? Je n'en suis pas certaine.
Vous pensez même le contraire?
Oui.
J'entends. Non, mais disons-le. Non, mais disons les choses.
Ok. Ouais. Oui, je pense le contraire et je pense que c'est un point essentiel parce que sinon, on risque de refouler le problème. On risque de continuer dans la même voie de 2005. Donc, on est dans une position dans laquelle les élites nationales et européennes continuent de dire le peuple a la mauvaise réponse. La mauvaise réponse au référendum français sur le traité constitutionnel européen, la mauvaise réponse, par exemple, au référendum anglais sur le Brexit. Bah, la force de quelqu'un que je trouve très dangereux comme Theresa May, c'est que quand même elle prend au sérieux la réponse du peuple. Après, elle donne la mauvaise direction, à mon avis, à la réponse du peuple, mais il faut la prendre en considération. On ne peut pas continuer à dire ceux qui ne partagent pas ce projet européen-là, ils se trompent.
On va venir aux propositions d'Emmanuel Macron sur l'Europe, mais je voudrais vous entendre, Clémentine Forissier, sur ce que nous dit Teresa Pulano. Elle nous dit, en gros, je ne suis pas sûr, en tout cas, elle pense même que Emmanuel Macron n'a pas entendu les messages du peuple français lors de ce scrutin, notamment ceux qui se trouvent derrière le vote Marine Le Pen et derrière le vote Mélenchon.
Alors moi, je ne sais pas si Emmanuel Macron a la bonne ou la mauvaise réponse, mais je trouve que le résultat de ce premier tour, avec effectivement Mélenchon-Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, avec d'autres forces politiques, parce que Benoît Hamon n'avait pas un discours non plus anti-européen, etc., montre simplement une chose, c'est qu'il y a une vraie division en deux de la France. En fait, je pense que je suis assez contre l'idée qu'on laisse de côté les 50% qui pensent pas, justement, que l'Europe est forcément une mauvaise chose, etc. Je pense qu'il faut prendre en considération, et de toute façon, il ne gagnera l'élection, à mon avis, et il n'arrivera à gouverner par la suite que s'il prend en considération l'immigration. Effectivement, c'est 50% de Français qui vivent mal cette Europe, mais qui vivent mal au-delà de l'Europe, qui vivent mal la mondialisation, qui ont l'impression qu'ils en souffrent, qu'elle est dérégulée, qu'ils n'en sont pas forcément les bénéficiaires, même si je pense que entre Mélenchon et Le Pen, à mon avis, il faut distinguer l'électorat. Je pense qu'ils n'ont pas forcément les mêmes réflexes par rapport à la mondialisation et à l'Europe. Mais il ne faut pas non plus oublier ces 50%. Et d'ailleurs, quand on voit la carte du vote en France, Macron-Le Pen, si on schématise un peu, il y a un vote des villes. Alors, à mon avis, d'ailleurs, on se trompe parfois aussi parce qu'il y a des pauvres dans les villes. Il n'y a pas que des pauvres dans les campagnes et des gens qui... Mais il y a des gens qui, peut-être, sont en contact avec un monde qui bouge, qui peuvent plus facilement peut-être en bénéficier, et des gens qui se sentent abandonnés, peut-être en décalage total avec justement cette ouverture et cette mondialisation, et donc forcément avec l'Europe.
Et d'ailleurs, vous parlez de géographie électorale. En réalité, la carte du vote Emmanuel Macron, Marine Le Pen ressemble furieusement à la carte qu'on avait eue en 2005 lors du référendum pour la Constitution européenne, où là aussi on avait une ligne de partage qui ressemble exactement à celle qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, le journal Libération expliquait ce matin que l'ambition de Marine Le Pen, c'était de rassembler cet électorat précisément qui avait voté non à la Constitution européenne. Alors, reste à savoir Teresa Pulano si elle en sera capable, mais elle va clairement essayer de puiser de nouvelles forces dans ce rejet de l'Europe. Ça paraît assez clair, Teresa Pulano.
Oui, mais je dois être claire, on ne peut pas partager la position de Marine Le Pen. Elle-même, c'est vraiment très dangereux, je pense, qu'elle soit arrivée au second tour des élections présidentielles. Parce que voilà, si je reviens en fait à cette question de comment on surmonte les crises en Europe et dans le monde, dans l'histoire, bien sûr, le risque, c'est la plupart du temps, si les élites n'arrivent pas, ne sont pas solides, n'arrivent pas à donner une réponse à des gens qui sont fragilisés, qui se sentent dans l'insécurité et qui se sentent dans la précarité économique, c'est clair que la seule réponse possible après, c'est en sortant de la crise par la droite. Et Marine Le Pen, avec sa défense de la nation et son racisme, il ne faut pas l'oublier, elle est le vrai danger. Donc il faut être bien clair là-dessus. Donc justement, je dis que plutôt qu'une ruse de Marine Le Pen, je vois là une faiblesse des élites. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de le dire. C'est important de ne pas seulement regarder le symptôme, Marine Le Pen. Et je partage en fait le constat que bien sûr, les électorats de Mélenchon et de Marine Le Pen sont complètement différents. Donc il ne faut pas mélanger cela. Mais vous parlez en fait des pauvres dans les villes. Donc, bien sûr, les clivages ne sont pas simplistes. Mais la question, c'est quelle est la place les élites françaises, et Macron est quand même s'il n'est pas le candidat du PS, est quand même le candidat des élites françaises, quelle est la place qu'il donne dans sa représentation aux pauvres dans les villes? Je ne la vois pas.
Je voudrais qu'on aborde la question de l'élargissement, la question de l'identité. Donc on a pas mal de travail, mais avant encore peut-être un mot d'actualité. Et je le disais, sur le programme européen d'Emmanuel Macron, Clémentine Ferrissier, il y a un certain nombre de propositions. Alors je pourrais en citer quelques-unes. Sur la sécurité, il veut porter à 5 000 hommes mobilisables le contingent à disposition de l'Agence européenne des gardes-frontières, qui en compte aujourd'hui 1 500. Sur le plan économique, il veut renforcer l'intégration en modifiant la gouvernance de la zone euro, en permettant des investissements placés sous le contrôle d'un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Il veut également un Buy European Act visant à réserver les marchés publics localisant la moitié de leur production en Europe. De façon générale, quel regard vous portez sur les propositions de réforme de l'Union européenne d'Emmanuel Macron ?
Je dirais qu'elles sont relativement réalistes par rapport à l'existant. C'est-à-dire que il promet pas des choses qu'il ne pourra absolument pas faire a priori. Ça va quand même nécessiter de renouer avec l'Allemagne et de se mettre dans une position de rapport de force, mais dans ce qu'elle a de positif, c'est-à-dire le dialogue politique ne peut pas être fait juste comme on l'a un peu vu sous ce quinquennat Hollande d'un président qui se met un peu sous la coupe de l'Allemagne, même si l'Allemagne a bougé sur pas mal de sujets. Mais donc je pense que globalement ce que propose Macron est relativement faisable. D'ailleurs, des choses qui sont déjà en cours, ce qu'il dit sur les frontières, il peut rallier, à mon avis, sur la protection des frontières extérieures de l'UE, pas mal de pays sur l'augmentation du nombre de gardes frontières, etc. Donc ça me semble pas, et c'est plutôt sain, ça me semble pas infaisable, parce que quand on se fait élire en expliquant qu'on va réorienter l'Europe, comme l'a fait Hollande en 2012, ou en expliquant qu'on va sortir de Schengen si jamais les évolutions qu'on propose n'aboutissent pas. On se place dans une posture qui est un peu opposée à la façon dont la construction européenne fonctionne, et surtout parfois en disant des choses qui peuvent pas du tout se faire. Alors moi, je pense que dans ce sens-là, ça va plutôt dans le bon sens. Et surtout, et je reviens à ce que je disais au départ, on a l'impression qu'il a envie de construire et que c'est pas simplement nous, la France, voilà ce qu'on veut et voilà la façon dont je vais imposer mes vues, parce que ça ne fonctionne pas en Europe aujourd'hui.
Vous dites qu'il a envie de construire, et visiblement, il a aussi envie de consulter Teresa Pulano, puisqu'il prône l'organisation de conventions démocratiques dans chacun des États membres. C'est une idée qui n'est pas foncièrement nouvelle, qui avait été notamment avancée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine dans son ouvrage Sauver l'Europe, qui évoquait à l'époque des conférences de refondation. Ça aussi, c'est un enjeu important, celle de renouer tout simplement avec les peuples, de leur redonner la parole.
Oui, mais il faut faire très attention à comment on le fait. Parce que si on part avec l'idée que le peuple européen est la somme des peuples des États membres, là on se trompe. Étienne Balibar, le philosophe Étienne Balibar, quand il parle du problème de la solidarité en Europe, il dit « Le vrai problème, c'est que si on a Marine Le Pen qui passe au second tour en France, qui devient le président français, ou même là, si on a Marine Le Pen qui passe au second tour, qui sort gagnante du premier tour, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Qu'est-ce qui se passe en Italie? Est-ce que les opinions publiques des autres pays sont mobilisées? Ben non. Donc là, on a vraiment la question, ce n'est pas le rapport entre le gouvernant et le peuple national, mais c'est aussi les relations transnationales entre les pays membres, mais aussi, et ça c'est un problème clé à mon avis pour la France, qui a déterminé et qui déterminera ces élections et l'avenir de la politique française, entre l'Europe et les pays voisins.
Alors,
à l'Est, mais aussi dans le Sud,
justement,
dans la Méditerranée.
L'Europe et ses pays voisins. Et venons-en à l'identité. Parce qu'on a parfois du mal à définir ce qu'est la citoyenneté européenne, outre bien sûr la libre circulation, et quelles sont les limites aussi géographiques de cette Union européenne. Et pour cause, bien sûr, il y a derrière l'idée du projet européen quelque chose qui relève de l'universalité. Or, ces derniers temps, on a l'impression qu'elle se définit progressivement, mais en négatif. C'est-à-dire avec une Russie de Poutine et sa critique perpétuelle d'une civilisation européenne supposément décadente, qui s'identifie assez clairement dorénavant comme extérieure au projet européen. D'ailleurs, il faut se souvenir que le conflit ukrainien a quand même éclaté à propos précisément du rapprochement de Kiev avec l'Europe. Plus récemment, on le voit aussi avec la Turquie d'Erdogan, qui, à force de voir les perspectives d'intégration s'éloigner, eh bien décide d'elle-même de s'en éloigner. La décision du président turc d'organiser un nouveau référendum sur ce sujet en est l'une des illustrations. On a l'impression qu'à l'impossibilité de définir les contours de l'Europe et de son identité, les autres sont en train de s'en charger à notre place, Teresa Pulano.
C'est vrai, mais à mon avis, il faut distinguer deux niveaux. Le niveau de ce qui se passe et le niveau de ce qui se dit dans le discours politique. La thèse en fait, de mon livre, c'est que l'Union européenne est un projet de construction d'un espace territorial. Ce qui se fait, ce qui est en train de se faire. Le discours européen, le discours de la libre circulation, c'est on est dans un espace déterritorialisé où l'espace, au sens concret, ne compte pas. Or, mon analyse montre que c'est exactement le contraire. La libre circulation se fait pas au-delà des aspects concrets de la vie. Libre circulation signifie quelqu'un qui a un parcours concret de traverser une frontière. Et donc là, c'est aussi la thèse de regarder comment ceux qui traversent les frontières, ça peut être les citoyens européens, mais ça peut être aussi les migrants, ce sont eux qui donnent une consistance à cet espace. Donc, à mon avis, le problème, c'est que on a un processus de construction d'un territoire européen par le droit européen, tout comme par un espace qui serait défini comme espace de circulation, mais avec son caractère très concret. Le problème, c'est comment on se saisit de cela, parce que pour l'instant, ça reste passif.
Justement, vous dites dans votre livre, et je vous donne la parole à Clémentine Forissier, mais je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu, que la crise, Teresa Pulano, de la zone euro a mis en lumière la fragilité de la construction européenne, mais aussi les interrogations autour de l'existence de cette unité européenne à côté des identités nationales. Alors, il n'est pas question d'opposer deux types de citoyenneté, dites-vous, l'une nationale et l'autre qui serait post- ou supranationale, mais d'analyser leur articulation. Et vous faites l'hypothèse que la citoyenneté européenne, se caractérise par deux mouvements simultanés. Je vous cite. D'une part, elle est interprétée comme un appareil de production d'un espace territorial européen quasi étatique, à la fois différencié et unitaire, ce qui est visible dans la construction d'un espace de libre circulation dans lequel les trajectoires de déplacement sont triées en fonction des sujets de cette circulation. Et d'autre part, elle agit comme une machine à différence qui met en place une dynamique de hiérarchisation des individus et des citoyens dans l'espace européen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces hypothèses, sachant qu'elles renferment de vraies difficultés, et notamment celles que vous évoquiez, concernant l'espace, le territoire de l'Europe, qui n'est que très rarement, voire pas du tout, défini de façon formelle, Teresa Pulano?
Oui, bah déjà un petit point de clarté. C'est vrai qu'il n'est jamais défini de façon formelle dans le discours général, mais les juristes, et ça c'est clairement un discours pour les spécialistes, mais les juristes en fait de droit européen sont désormais d'accord sur la proposition qu'on peut parler d'un territoire de l'Union européenne comme quelque chose de différent de la somme de ses États membres. Donc même d'un point de vue de la formalité du droit européen, on reconnaît cela. Mais pour revenir en fait, merci d'avoir cité un passage de mon livre, pour revenir à cela, moi ce qui m'a frappé, c'est que avec mon analyse, je me suis rendu compte que la citoyenneté européenne, si vous voulez, c'est un peu pour moi, je suis partie de ce constat, c'est un peu comme parler de la paix. Ce sont des concepts qui sont tellement chargés rhétoriquement, qui font un travail de masquer en fait ce qu'ils font dans la réalité. Et donc il faut trouver un angle d'attaque qui soit extérieur, parce que sinon on est pris dans la rhétorique du sujet même. Et je pense que c'est ce qui se passe avec cette question de la citoyenneté européenne. C'est un concept complètement lisse. Et c'est à cause de ça que l'opposé, ou en fait le concept qui est mobilisé en contraste de citoyenneté nationale, apparaît comme un concept qu'on peut saisir et dont on peut se saisir. Ce que je veux dire avec le concept de citoyenneté européenne comme machine à différence, j'ai remarqué que le droit de citoyenneté européenne, elle produit, il retravaille les citoyennetés nationales et il produit des lignes de fracture et des différences qui sont autres, mais qui partent en fait des citoyennetés nationales. Mmh. Et pour expliquer cela, j'ai fait l'exemple du fonctionnement de la citoyenneté dans le contexte des colonies, des empires coloniaux français et anglais. Si vous regardez la citoyenneté britannique, si vous allez sur la page en fait du ministère de l'Intérieur britannique, vous verrez que, à différence de la citoyenneté française, vous avez en fait 6 catégories de citoyens britanniques, parce que ça, c'est un héritage direct du Commonwealth, en fait, de l'Empire britannique. Or, pour moi, la citoyenneté européenne ressemble à ça. Donc, ce n'est pas une citoyenneté unitaire, mais c'est une citoyenneté qui produit des différences à l'intérieur des citoyens par rapport à leur rapport au territoire, mais à un territoire où l'on circule, où on n'est pas enfermé, en fait, dans les frontières nationales. Donc, le vrai défi, c'est comment on gère les circulations. Et je pense que ça, c'est l'une des luttes, des terrains de lutte aujourd'hui en Europe. Et c'est l'un des terrains de lutte du Brexit, par exemple.
C'est amusant, c'est amusant ce que vous dites, pardon de vous couper, à propos des Britanniques, du Brexit et de la question de cette citoyenneté qui serait, disons, à géométrie variable. Parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu qu'à la suite du Brexit, l'eurodéputé Guy Verhofstadt a fait une proposition assez étonnante, celle d'introduire la possibilité pour les citoyens britanniques d'acquérir une citoyenneté européenne s'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est de payer une redevance à l'Europe par laquelle ils pourraient accéder au marché unique et même ils pourraient voter pour des eurodéputés. Donc on voit bien une forme de commercialisation ici de l'identité européenne. Teresa Pulano.
Oui, cette forme de commercialisation est très fréquente aujourd'hui pour ce qui est de la citoyenneté. Mmh. Moi, je travaille en Suisse et en Suisse, il y a des boîtes en fait, d'avocats spécialisés dans l'achat de la citoyenneté suisse par les Chinois, par exemple, par des riches chinois. Bien sûr, le risque là, c'est que qui est-ce qui va acheter cette citoyenneté européenne? C'est ceux qui peuvent se le permettre. Donc, c'est très risqué, je pense. Mais on voit en fait un peu cette dimension impériale là-dedans. Oui. Parce que c'était le fonctionnement du Commonwealth, donc de l'Empire britannique.
Sachant qu'évidemment, cette proposition pose déjà problème chez les 27 de l'Union européenne, mais aussi chez les Britanniques. Il y a assez peu de chances pour qu'elle aboutisse, mais c'est intéressant de voir que ce mouvement existe. Clémentine Forissier.
Oui, moi je voulais réagir par rapport à un certain nombre de choses que vous avez dit. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les textes européens, la notion de territoire, elle n'est pas vraiment mentionnée. En fait, l'Europe, au sens des traités, est un, et on parle d'espace, on ne parle pas de territoire. Et aujourd'hui, ce qui à mon avis est un facteur de peur, notamment pour les citoyens, et là je repense aux citoyens qui votent en France, c'est justement qu'on a l'impression que c'est un territoire qui n'a pas de limites, qui n'a pas de frontières et qui s'élargit de façon incontrôlée. C'est un peu ça qu'il y a dans le discours quand même des extrémistes qui disent, du coup, qui répondent de façon extrêmement simple, l'Union européenne s'étend de manière incontrôlée, les réfugiés arrivent de façon massive, ce qui par ailleurs est faux en France. Et donc, la réponse à ça, c'est fermons nos frontières, isolons-nous, on réglera le problème. Et donc, Et pourquoi est-ce qu'en fait on n'a pas défini les limites de l'Union européenne? C'est parce qu'au départ, d'une part, on savait pas jusqu'où on pouvait aller, et puis parce que c'est un sujet très clivant, c'est-à-dire entre le Royaume-Uni par exemple, jusqu'à une époque récente, la France et même des pays de l'est de l'Europe, on n'a pas la même vision de ce que doit être ce territoire de l'Union européenne. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir s'il va falloir assumer un discours par rapport à justement cette limite territoriale. Et quand vous disiez que c'est nos voisins qui finalement nous poussent à nous interroger et qu'elle est définie en négatif par les Turcs qui vont dans une certaine direction, Poutine qui va dans une autre et les Américains qui expliquent aux Européens qu'il faut on peut critiquer Trump, hein, mais qu'il faut qu'en gros ils se débrouillent tout seuls parce qu'eux ils ont d'autres chats à fouetter. Effectivement, ça nous pousse à nous poser cette question. Et vous disiez... Il y a cet espace de circulation qui finalement oblige, définit d'une certaine manière le territoire, puisqu'on bouge d'un endroit à un autre. Et vous disiez, c'est les juristes européens commencent à avoir une vision commune par rapport justement à ce territoire. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas d'appropriation politique claire, et notamment des élites, et là on revient à la discussion de tout à l'heure, de qu'est-ce que c'est que ce projet. Et à commencer par... où sont ses limites? Je pense que s'il n'y a pas ça, ça peut véhiculer. Du coup, on s'engouffre dans les peurs, en fait. Quant à la citoyenneté européenne qui fonctionne à géométrie variable, effectivement, l'Union européenne n'est pas la citoyenneté européenne n'est pas la somme de tous les États qui la composent. Enfin, je veux dire, chacun a une vision de la citoyenneté qui est hyper différente, et c'est assez intéressant de parler de ces propositions britanniques sur la vision de la citoyenneté britannique avec ces différentes catégories. Moi, je me dis, mais on est aux antipodes de la façon dont les Français considèrent leur citoyenneté, avec une espèce de vision complètement universaliste qui doit s'imposer à tout le monde, où on comprend pas du tout que la laïcité soit pas quelque chose qui soit absolument évident pour les autres pays en Europe, alors que pour nous ça l'est. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans des modes de fonctionnement hyper différents.
Alors justement, parce que on va parler tout à l'heure de la relance et de l'Europe à la carte dont on parle de plus en plus, mais finalement cette crise des visions différentes, elle est aussi le résultat de ces élargissements. On est dans des crises perpétuelles sur les dettes publiques, sur la crise migratoire, etc. Parce qu'on n'est pas en capacité de créer du consensus, parce qu'on n'est pas en capacité de mettre en place des politiques communes en matière de migration, on l'a vu de façon extrêmement prégnante. Est-ce que finalement, les élargissements successifs ne sont pas à l'origine de cette situation de crise permanente?
Je ne sais pas si on peut tout mettre sur le dos de l'élargissement. Ce qui est certain, c'est que au départ, on était à 6, avec des objectifs assez clairs en matière de paix et de volonté de construire ensemble, comme on le disait tout à l'heure. Si on regarde la façon dont le traité de Rome a été finalement signé et le rôle qu'ont joué par exemple les Belges dans l'élaboration de ce traité, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont vraiment essayé de trouver des projets qui pouvaient rassembler tout le monde et qui étaient un peu définis. Après, ils étaient les pères fondateurs de l'Europe se disaient pas que ça devait s'arrêter au bloc de l'Ouest et qu'il y avait cette idée que derrière ensuite il faudrait rallier les pays de l'Est de l'Europe à l'Union européenne. Ce qui se passe, c'est que l'élargissement de 2004 a eu lieu, selon moi, dans un mouvement concomitant à la mondialisation. Et donc en fait, on arrive à un moment où on intègre énormément de nouveaux pays avec des disparités économiques fortes. Et on essaye de les arrimer aux bateaux européens en leur donnant des fonds, etc. Et là-dessus, à mon avis, c'était historiquement une bonne chose. Et d'ailleurs, ça a plutôt correctement fonctionné parce que ces pays sont en train petit à petit de nous rattraper, etc. Après, ça a peut-être été mal géré par certains, et on le voit notamment au Royaume-Uni, qui a ouvert son marché du travail de manière illimitée alors qu'il avait des possibilités.
Attendez, vous dites ça a bien marché, et vous avez raison. D'une certaine manière, ça a bien marché. Sauf que précisément ce que vous soulignez tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de « on est arrivé aujourd'hui à une superposition de visions différentes de l'Europe ». Est-ce qu'on n'aurait pas dû anticiper ça ? C'est-à-dire dire, au moment où on effectuait ces élargissements, dire « attention, ceux qui viennent jusqu'à nous dans ce bateau européen doivent avoir conscience que la vision européenne, c'est ça, que le projet européen, que c'est ça, que l'identité européenne et la citoyenneté européenne, c'est ça ». Or, ce travail, il n'a pas été fait à l'époque, probablement parce que précisément, l'Europe n'était pas dans une crise perpétuelle à cette époque. Les choses allaient plutôt bien, on n'était pas dans la crise économique, sociale, politique d'aujourd'hui, il n'y avait pas la menace terroriste qu'on connaît aujourd'hui, etc., qui pose ces problèmes-là. Mais ce travail de pédagogie, est-ce qu'on n'est pas passé à côté ?
Si, mais je pense que ça correspondait au moment où on a commencé à ne plus avoir de vision sur ce que devait être le projet européen. Je pense que le Chirac et Schröder avaient pas de vision de ce que devait être le projet européen. On avait vaguement la stratégie de Lisbonne de 2010, mais on avait fait l'euro, et puis après, on savait plus, on avait fait le marché unique en 86, on avait fait l'euro, on n'avait plus vraiment de vision de ce que ça devait être. Donc si, c'est ces deux mouvements qui sont concomitants, et c'est en ça qu'on a... Et après, ça n'a pas arrêté de se poursuivre finalement, parce qu'après, on a réagi par rapport à la crise mondiale, par rapport à la crise des réfugiés.
Puis il y a eu le référendum aussi sur la Constitution européenne en 2005.
Exactement. Et il y a eu le référendum en 2005 qui a marqué un violent, violent coup d'arrêt à la construction européenne et qui a tétanisé, notamment en France, les dirigeants qui ont suivi, ça c'est clair.
Teresa Pulano, je vous fais réagir, et puis en particulier peut-être sur ce lien que j'établissais, en tout cas je le propose, entre la crise permanente et l'élargissement finalement. Est-ce que l'élargissement n'est pas à l'origine de cette situation de crise permanente, Teresa Pulano?
Alors, deux choses, en fait. Donc, je pense que ce qu'on voit avec l'élargissement, et ce n'est pas un hasard que, je pense, la crise dans laquelle on est commence bien en 2005, avec le référendum français. Parce que si on regarde même cette question des référendums contre l'Europe ou contre cette Europe-là, c'est 2005 en France et aux Pays-Bas. Après, on a le référendum irlandais. Après, on a le référendum grec de l'été 2015. Avant, on a le référendum suisse, même si la Suisse n'est pas un pays membre, sur précisément la question de la
liberté. Et qu'elle ne souhaite d'ailleurs plus l'être, hein, puisque je rappelle que la Suisse a retiré sa candidature pour l'Union européenne. Je ferme la parenthèse.
Oui. Et dernière en date, le référendum anglais. Pour moi, en fait, c'est... Le vrai problème, c'est qu'à chaque fois, on a dit, les gens se trompent. Et justement, le traité constitutionnel, on l'a remanié et on l'a appelé traité de Lisbonne. Et il est là et il est parti, il fait partie du droit européen. Mais pour revenir en fait à la question de l'élargissement, donc sans doute, c'est une date clé, 2004. Mais non, est-ce que l'élargissement est la cause de cette crise, en fait, d'identité? Je dirais ça comme ça. Dans la question de l'élargissement territorial, on a deux questions qui s'enchevêtrent. Et c'est ça qui fait la complexité du problème aujourd'hui. La question économique et sociale, parce que c'est clair qu'avec l'élargissement à l'Est, l'espace européen en tant qu'espace économique devient de plus en plus clivé. Et pas seulement entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, mais entre le Nord et le Sud. Donc on a un agrandissement des inégalités qui coïncide avec l'euro et qui coïncide avec des politiques de l'Union européenne qui favorisent en fait ces inégalités économiques. Deuxième question, c'est la question identitaire. Et celle-là est une question qui vient de loin. Et là, je dirais qu'en fait, la question de l'élargissement est un faux problème. Parce que c'est comme si on raisonnait sur l'idée que le territoire de l'Europe, c'est le territoire de l'Europe de l'Ouest, si on n'a pas l'élargissement. Mais c'est faux. Parce que même Marine Le Pen, à moins de faire une réforme du droit français, elle peut pas limiter les frontières de la France à la France européenne, à la France des Blancs. Parce que le territoire européen, et là c'est une question purement formelle et juridique, va s'étend de l'Asie à l'Amérique latine aux Caraïbes. Donc quand Jean-Luc Mélenchon a dit « la plus grande frontière de la France n'est pas avec l'Allemagne, mais avec le Brésil », il a raison. Et ça c'est la France, et c'est l'Europe, c'est les Pays-Bas, et c'est l'Europe. C'est tout la question des territoires d'outre-mer de l'Europe. Donc, est-ce que le territoire européen est un territoire qui coïncide avec l'identité des Européens telle qu'on l'a construite des Européens blancs, par exemple, bah, bien sûr que non. Et ça, on peut même défaire l'Europe, mais ça va rester. Et il faut aborder ça aussi.
L'Europe, les lignes de fracture européennes, aujourd'hui citoyenneté, valeurs, frontières, jusqu'où va l'Europe? C'est la question qu'on se pose avec Clémentine Forissier et Teresa Pulano.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va essayer de voir finalement comment sortir de cette crise qu'on évoque ensemble, et notamment peut-être avec cette stratégie d'Europe dite à la carte, puisqu'en mars dernier, les chefs d'État de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne s'étaient réunis à Versailles pour parler justement de la relance européenne. Ils se sont accordés sur ce principe d'une relance faite avec une stratégie dite de l'Europe à la carte, l'Europe à plusieurs vitesses, l'unité n'est pas l'uniformité, avait dit le président français. Clémentine Forissier, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cette Europe à la carte, sachant que, en réalité, elle existe déjà un petit peu, elle est déjà un peu à géométrie variable, on a, dans le domaine monétaire notamment, tout le monde ne fait pas partie de la zone euro, sur les questions des frontières, tout le monde ne fait pas partie de l'espace Schengen également, donc la question qui se pose, c'est dans quel domaine est-ce qu'on peut encore apporter de la différenciation, et est-ce que ça vous semble de nature, Clémentine Forissier, à sauver l'Europe ?
Je comprends qu'on se pose la question de l'Europe à la carte pour deux raisons en ce moment. L'une tient au fait qu'il y a certains pays, et là en l'occurrence la Pologne et la Hongrie, qui donnent l'impression de ne pas jouer le jeu de l'Union européenne et de freiner des cas de fer et de ne pas jouer le jeu de la solidarité. Et donc il y a un moment...
Pardon, c'est pas une impression, c'est une réalité.
Oui, hein, oui.
Ils rejettent le mécanisme de relocalisation, c'est une réalité.
Oui, oui, et puis ils font voter des lois qui vont à l'encontre de l'état de droit, des valeurs de l'UE, etc. Et donc il y a un moment où on se dit, bon, vous voulez pas avancer, on vous donne, vous nous rendez pas. Ça, c'est la vision franco-allemande qui a été portée ces derniers temps. Donc on va avancer sans vous, parce que nous, on a envie que ça marche. Donc il y a ça d'un côté, et il y a de l'autre quelque chose qui rejoint ce qu'on évoquait précédemment, c'est que à 28, un Conseil européen ou une discussion, ça se passe avec 2 minutes de temps de parole chacun, qui donne déjà un temps infini. Alors et personne n'a discuté. Il y a un problème de fonctionnement institutionnel à 28. C'est très compliqué de prendre des décisions, c'est très compliqué d'avancer, et ça empêche en fait le dialogue politique. Donc il y a une sorte de sentiment de blocage qui est donc la solution. Qu'on peut trouver pour répondre au premier point de l'absence de solidarité et au deuxième du fonctionnement institutionnel, c'est de se dire, bon, et si on avançait par petits groupes pour fonctionner un peu en mode projet, si je reprends le langage des start-up.
Ça serait quoi, le petit groupe? Est-ce qu'on revient aux 6 de départ? Est-ce qu'on réduit encore, quitte à ce que le couple franco-allemand soit véritablement le cœur de ce nouveau dispositif? Parce que, évidemment, en faisant ça, vous créez nécessairement des États membres de seconde zone, entre guillemets, ceux qui sont exclus de ce fameux groupe.
Je ne sais pas s'il devrait y avoir... Alors, il y a des gens... Certains pensent que le petit groupe, c'est 19 États qui ont l'euro. Et que c'est au sein de ce petit groupe, qui est quand même déjà un gros groupe, mais qui est assez cohérent et qui a des intérêts, franchement, alors là, pour le coup, qui sont convergents et qui doivent l'être parce que la monnaie, ça induit énormément de choses. Et donc, voilà, ça, c'est une première option. Après, l'autre option, elle n'est pas forcément de définir un certain nombre d'États... fixe, auquel après viendraient s'ajouter ceux qui veulent. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, sur l'Europe de la défense, on travaille avec, par exemple, avec l'Allemagne, pourquoi pas avec l'Italie, pourquoi pas avec d'autres, et en fonction des projets auxquels on s'intéresse, on dit c'est ouvert, mais nous, on va essayer d'y arriver à peu nombreux. Mais je suis assez sceptique par rapport à ça, parce que ça existe déjà d'une certaine manière, même si juridiquement, c'est assez compliqué à mettre en place, mais sur le modèle des coopérations renforcées, donc l'idée, c'est on se met à 11 et on essaye de faire un projet ensemble, et puis ceux qui veulent ensuite s'ajouter peuvent. Mais on voit bien que ça fonctionne pas vraiment très bien, puisque par exemple sur la taxe sur les transactions financières, le projet est bloqué depuis 3 ans, 5 ans, je ne sais plus.
Teresa Pulano, je voudrais vous faire réagir sur cette question de la relance de l'Europe, cette fameuse Europe à plusieurs vitesses, avant de revenir sur cette question de l'élargissement et de parler des Balkans de l'Ouest avec Jean-Arnaud de Reims qu'on va prendre tout à l'heure par téléphone. D'abord sur cette question d'Europe à la carte, Teresa Pulano.
Oui, de mon point de vue de chercheur, cette question de l'Europe à la carte est très intéressante. Donc, d'un point de vue politique, pour moi, il s'agit seulement d'un slogan, parce que ça nous empêche à nouveau de voir la complexité des choses. Mais elle révèle, en fait, donc les élites européennes disent, voilà, c'est vrai, On est dans un espace, dans un territoire européen qui est clivé, qui est hiérarchisé. Il faut en prendre conscience et on travaille à partir de là. Mais alors là où ça devient dangereux, c'est que ça couvre deux choses. Ça couvre la réalité. Les divisions ne sont pas des divisions nationales, mais elles traversent les espaces nationaux et elles les récomposent. Et quels sont les moyens après de construire un espace politique, de politiser cet espace, ce de quoi on a besoin. Je fais un exemple. Orban, le premier ministre hongrois, il fait toujours partie du PPE, du Parti des libéraux européens, tout comme Angela Merkel. Donc l'unité européenne, ça pourrait être utilisé aussi pour faire pression sur quelqu'un comme Orban, mais personne ne le fait. Donc c'est bien plus simple de dire il fait partie d'autre chose, d'un autre groupe, d'un groupe de série B, donc on n'a rien à faire avec lui, et on masque en fait le fait qu'on pourrait faire quelque chose, le faire sortir du PPE, mais on ne le fait pas.
Je voudrais qu'on parle dorénavant de cette question des Balkans de l'Ouest. Quand on fait le bilan de l'intégration à l'Union européenne des pays des Balkans de l'Ouest en 2017, on a les pays qui sont déjà membres, la Slovénie, membre depuis 2004, la Croatie, membre depuis 2013, ceux qui attendent, la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, l'Albanie, qui sont officiellement candidats. On a la Bosnie, qui a ouvert des négociations officielles l'année dernière, et puis on a le Kosovo, qui n'a pas de statut officiel, mais qui est un candidat potentiel.
Je veux vous dire tout simplement que ma sensation très forte, c'est que une des raisons de cette malaise européenne, c'est aussi le fait que en Europe, il y a une génération qui est la première à ne pas avoir eu une guerre et à ne pas avoir connu une guerre. Pour nous, c'est un peu différent. Pour nous, l'Europe, c'est exactement le projet de paix, de sécurité qui était depuis sa construction ici, parce que nous, on a connu les guerres et on sort des guerres depuis pas très longtemps exactement. Et si les Balkans aujourd'hui sont pas la poudrière d'Europe,
des Balkans, oui.
C'est exactement parce que il y a un grand espoir et une grande motivation pour joindre l'Europe. De toute façon, je veux vous dire que pour nous, il n'y a pas d'alternative et pour nous. L'intégration européenne, c'est pas un voyage pour aller quelque part, mais c'est une marche pour construire un État moderne et une société démocratique. Il n'y a pas d'alternative.
Il n'y a pas d'alternative. L'Europe, c'est la garantie pour la paix. C'est une étape dans la construction d'un État fort, d'un État moderne. Voilà ce que disait Edi Rama, le Premier ministre albanais. C'était il y a quelques jours sur France 24. Bonjour Jean-Arnaud de Reims.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, journaliste et puis rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Alors, on va reprendre les choses. On va faire un petit saut en arrière, revenir à 2003, le sommet de l'Union européenne de Thessalonique. Les responsables européens se positionnent pour un élargissement aux Balkans occidentaux, considérant qu'ils avaient vocation, je reprends le terme, à intégrer l'Union européenne. Je vais vous poser la question de façon extrêmement générale, assez brutale, même voire carrément binaire. On est presque 15 ans plus tard. Il y a toujours autant des pays des Balkans qui sont restés en marge de l'Union européenne. Est-ce que c'est la faute de l'Union qui aujourd'hui, compte tenu de ces difficultés dans lesquelles elle est empêtrée, on en parlait depuis le début de cette émission, hésite finalement à élargir, ou est-ce que c'est aussi la faute de ces pays qui n'ont pas su finalement opérer les réformes nécessaires ?
Non, ça, l'argument des réformes, excusez-moi, c'est un argument qui n'a plus aucun sens et auquel plus personne ne croit. La question d'intégrer ou non de nouveaux membres est une décision politique. Or, depuis 15 ans, l'Union européenne est incapable d'apporter une réponse politique aux pays des Balkans. Et c'est, je crois bien, le sens profond de ce que disait à l'instant Edi Rama, le Premier ministre albanais. On est aujourd'hui dans une situation totalement paradoxale, où l'Union européenne s'est imposée comme étant la seule perspective possible, mais en même temps, derrière, rien ne vient. Dans ces conditions, revenons un peu en arrière, revenons aux années, au début des années 2000. Là, la question de l'intégration européenne, elle était clivante. Dans tous les pays des Balkans occidentaux, partout, le débat politique s'organisait autour d'un clivage entre, d'un côté, des forces nationalistes, autoritaires, conservatrices, et des courants qui pensaient que l'Union européenne pouvait permettre un processus positif de transformation sociale, de progrès économique. C'était ce qui clivait le débat politique dans tous les pays de la région. Aujourd'hui, on a ce paradoxe que toutes les élites politiques et économiques des Balkans sont en théorie pro-européennes, mais que rien n'avance, que les opinions publiques n'y croient plus, les citoyens du Kosovo, d'Albanie, de Serbie ou de Macédoine n'attendent plus l'arrivée de l'Union européenne. Du coup, ils votent avec leurs pieds, ils partent massivement, ils s'exilent vers des pays de l'Union européenne parce que c'est la seule solution pour des jeunes de ces pays-là d'essayer de construire leur vie. Donc il y a d'un côté des élites qui sont toutes formellement pro-européennes, qui dans le même temps mettent en place partout au Kosovo, en Serbie, au Monténégro, des régimes de plus en plus autoritaires. L'Union européenne accepte cette situation-là au nom de cette idée de la stabilité régionale, mais cette stabilité est totalement mortifère puisqu'en réalité, rien de positif ne se produit et que ce pro-européisme de façade est en réalité devenu ce qui bloque, le prétexte qui permet de bloquer l'évolution sociale, politique et économique de ces pays.
Et là, la responsabilité de l'Union européenne est très forte. Vous dites que l'erreur de l'Union européenne, c'est de s'être réjoui de la conversion européenne des anciens nationalistes.
Exactement. Non seulement des anciens nationalistes comme Vučić en Serbie ou pas mal d'autres, mais également de la conversion des élites économiques. On sait que ces élites sont toutes fondamentalement issues des profiteurs de guerre des années 90 qui avaient besoin de se dire pro-européennes pour accéder à un marché pro-européen et surtout pour obtenir une sorte de blanc-seing sur les origines formelles saines de leur fortune. Donc l'Union européenne accepte cette situation-là au nom de la stabilité, mais la stabilité ne peut pas être une perspective pour des sociétés. Des sociétés stables, à la limite, ce sont des sociétés qui meurent. Les sociétés ont besoin de bouger, d'évoluer, d'avancer dans les Balkans comme partout dans le monde. Et aujourd'hui, on maintient uniquement cette stabilité, ce qui amène les responsables européens à donner un blanc-seing permanent à des régimes qui attaquent directement les libertés de la presse, l'ensemble des libertés publiques, qui bafouent le résultat des urnes. Regardez ce qui se passe en Macédoine, où depuis le mois de décembre, le gouvernement du VMRO de Pemenoe décide de ne pas accepter le résultat des élections uniquement parce qu'il ne lui a pas été favorable. Regardez ce qui se passe en Serbie, où il y a eu une campagne électorale qui a bafoué toutes les règles les plus élémentaires de fonctionnement d'une campagne démocratique, mais malgré cela, le premier à féliciter Aleksandar Vučić pour son élection obtenue dans ces conditions-là a été le commissaire européen Johannes Hahn. Dans ces conditions-là, moi j'ai énormément d'amis dans les Balkans qui me disent « Mais voilà, nous avons été durant des années pro-européens, nous sommes battus pour l'idée européenne, mais aujourd'hui cette Europe-là ne correspond plus du tout à ce que nous attendions. »
Ah oui, en Serbie, Aleksandar Vučić qui a accumulé énormément de pouvoir. Il est président, premier ministre, chef de parti. Même Milosevic, dont il était un ancien ministre, n'avait pas concentré autant de pouvoir. Et vous dites qu'il incarne cette évolution assez générale qui traverse les Balkans. Les pays des Balkans, dites-vous, sont entrés dans une nouvelle phase post-politique, post-démocratique de leur histoire. Il y a même un nouveau terme, d'ailleurs, qu'on utilise pour qualifier ce glissement. On parle de stabilocratie. Et d'une certaine manière, l'Union européenne porte une part de responsabilité dans tout ça. Mais pour revenir justement au peuple et aux sociétés, Jean-Arnaud de Reims. Est-ce qu'il pourrait finalement renverser la table et d'une certaine manière repolitiser cette question de l'intégration à l'Union européenne ? Puisque vous le disiez, aujourd'hui, de toute façon, toutes les élites économiques et politiques aujourd'hui sont pro-européennes et que de toute façon, ce n'est même plus un débat. Alors, est-ce que les sociétés pourraient finalement parvenir à repolitiser cette question-là ?
Alors ça, c'est une excellente question. Je dirais que c'est le vrai défi, la vraie question. Malheureusement, j'ai pas de réponse. Si l'on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a de plus en plus de mouvements de protestation nouveaux. Il y a eu le mouvement des plénums en Bosnie-Herzégovine il y a 3 ans, en 2014. Il y a, depuis plusieurs années, ces manifestations récurrentes en Macédoine. Il y a aussi, depuis le 3 avril, depuis les élections, donc, des manifestations quotidiennes en Serbie. Ceci étant, ces courants ont énormément de difficultés à formaliser un projet politique, justement parce que ces courants, comment dire, auraient espéré avoir un soutien de l'Union européenne. Mais l'Union européenne leur répond que ses partenaires privilégiés sont les autocrates qu'ils combattent. Du coup, ces manifestants, ces protestataires, étudiants, travailleurs ou autres, intellectuels, se retrouvent dans une sorte d'angle mort, sans parvenir à formuler un projet politique. Et l'autre réalité massive, c'est celle que j'indiquais, c'est que toutes les élites, les jeunes diplômés, s'en vont, parce que rien ne change, rien ne s'améliore d'un point de vue économique et social dans leur pays. Du coup, quand tous les jeunes formés, tous les jeunes diplômés s'en vont, qui va rester dans le pays ? Des retraités ? Oui. Des gens qui ne seront bien sûr pas capables d'impulser un changement positif.
Clémentine Forissier, c'est assez terrible d'entendre finalement le constat pour ces pays des Balkans de l'Ouest qui finalement se retrouvent piégés, je reprends le terme de Jean-Arnaud de Reims, et qui finalement sont abandonnés par l'Union européenne. On disait tout à l'heure, est-ce que les élargissements successifs ne sont pas à l'origine finalement de la crise que l'on traverse aujourd'hui, que l'Union traverse aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que la crise traversée par les pays des Balkans de l'Ouest aujourd'hui, eh bien, elle a été en partie créée par ce manque de soutien, par ce non-soutien de l'Union européenne, et même pire, ce soutien des autocrates, pour reprendre le terme de Jean-Arnaud de Reims.
Bah là, on arrive à une sorte de caricature, c'est-à-dire que l'absence de discours et de vision de ce que doit être l'Europe et le fait qu'elle ne se soit absolument pas assumée politiquement, parce que je pense que les institutions européennes, malgré tout, ne sont au bout du compte que ce que veulent bien en faire les États qui composent l'UE. La conséquence de cette absence de prise de position politique assumée, c'est ce qu'on voit dans les Balkans.
Et là, d'ailleurs, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si nous n'avions pas fait les élargissements à l'Est. Dans quelle situation seraient ces pays d'Europe centrale?
C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille dire que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne aujourd'hui est liée à son élargissement. Je pense que la situation dans laquelle se trouve l'Union européenne aujourd'hui, et notamment par rapport à ces pays-là et par rapport aux problèmes auxquels elle fait face en interne, est liée à l'absence de courage politique dont font preuve ses dirigeants.
Teresa Pulano, peut-être un tout dernier mot. Je rappelle que vous êtes en duplex de Strasbourg. En guise de conclusion, il nous reste à peine une minute. Teresa Pulano sur ces Balkans de l'Ouest.
Je
vous en prie.
Je pense que vous avez posé la question centrale. Est-ce que les citoyens peuvent répolitiser l'Europe? Et ça, c'est seulement à travers une ouverture radicale. Et je vais évoquer une figure d'un philosophe tchèque, Patočka, qui a écrit sur l'Europe, qui était un dissident pendant le régime communiste. Pour lui, l'Europe, c'est exactement cela. C'est cette ouverture radicale au-delà des étroitesses d'esprit avant tout. Et je pense que c'est là le vrai sens du projet européen. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas proposer la fermeture comme un avenir pour l'Europe.
Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin, Teresa Pulano. Un grand merci avec Jean-Arnaud de Reims, qui était avec nous, qui est historien, journaliste et puis rédacteur en chef de l'excellent Courrier des Balkans, qui permet de suivre cette actualité des Balkans, mais aussi de cet ouvrage « Comprendre les Balkans » avec Laurent Gélin, qui était paru aux éditions du Non-Lieu. Teresa Pulano, je réindique pour nos auditeurs que vous avez, vous, écrit « La citoyenneté européenne, un espace quasi étatique ». Un grand merci également à vous, Clémentine Forissier. Je renvoie nos auditeurs à Contexte.
Oui.
Le journal des politiques françaises et européennes. Un grand merci à tous les trois.
Merci.
Heure passée de presque 53 minutes, l'heure pour nous de se plonger dans le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
On parle d'authenticité aujourd'hui. Il y a en ce moment dans notre culture une réévaluation de la notion d'authenticité. Hier, vous nous avez cité un texte de Faisal Devji qui pense que le rapport entre authenticité et réalité est devenu inversement proportionnel. Moins on attend des hommes politiques qu'ils disent la vérité, plus on exige d'eux qu'ils soient sincères.
Oui, et dans un article publié il y a quelque temps déjà dans le New York Times Magazine, Jennifer Salai se moquait des tentatives faites par les politiciens pour passer comme des gens comme les autres, afin de faire valoir cette authenticité prétendue. Ainsi, Hillary Clinton s'est vantée durant la campagne présidentielle de porter toujours dans son sac une petite bouteille de sauce piquante. Le problème, écrit Faisal Devji, c'est que contrairement à la vérité, la sincérité ne peut pas faire l'objet d'une estimation objective. Elle est autoréférentielle. On peut établir avec une certaine précision la part des faits déformés et surtout inventés dans le discours d'un dirigeant, un faux intox, mais il est impossible impossible de déterminer à quel moment il cesse d'être en accord avec ses véritables idées. Alors même, vous l'avez dit, que la sincérité est dorénavant l'une des qualités premières exigées des politiques. Est-ce parce qu'ils ont trop abusé de la communication ? Aujourd'hui, dans tous les domaines, celui qui semble ne pas adhérer complètement à ce qu'il dit, qui donne l'impression de porter un masque, est devenu insupportable. Alors dans l'étude qu'il consacre à ce qu'il appelle l'âge de la sincérité, Faisal Devji montre que les notions de sincérité et d'hypocrisie, au sens où nous les entendons aujourd'hui, sont relativement modernes. Étymologiquement, le sens du mot grec dont est issue notre authenticité, autentes, ne s'est conservé que dans le langage juridique. Autentes en grec, en effet, désignait une personne qui agit de sa propre autorité, d'où le sens actuel en droit. Pour qu'un acte soit authentique, il faut que celui qui l'effectue est l'autorité nécessaire et sa valeur est donc réputée inattaquable. Le terme de sincérité, lui, forgé sur le latin sinceritas, apparaît dans notre langue au XIIIe siècle. Il a conservé un certain temps une partie de son sens original qui renvoie aux notions de pureté, d'intégrité. Un vin sincère, c'était un vin non frelaté. Mais selon Devji, c'est à l'époque de la Réforme qu'il prit en anglais son sens moderne.
Et alors en quoi, selon cet universitaire canadien, l'idée de sincérité devrait-elle être associé au protestantisme ?
Eh bien parce que le catholicisme médiéval n'exigeait des fidèles que l'obéissance aux rites, des déclarations rituelles, des gestes convenus au fond, il se préoccupait assez peu des croyances personnelles. Pour le protestantisme, au contraire, la sincérité est essentielle en ce qu'elle désigne l'adhésion intime du croyant à ses déclarations. La première était une religion théâtralisée, démonstrative, reposant sur des gestes. Le second prétend que seule la foi sauve. La Réforme ouvre l'époque de l'examen de conscience et s'accompagnera bientôt de la tenue du journal intime. Alors je saute une étape, la Révolution française. La Révolution française, poursuit Devji, fit de la sincérité sa vertu cardinale. L'ancien régime en effet avait cultivé une culture de cour et de salon basée sur l'art de paraître et de plaire. Cette culture impliquait une grande maîtrise des codes de comportement en usage, ainsi qu'une capacité à dissimuler ses véritables émotions. La révolution par réaction porta à incandescence l'horreur des masques et de l'hypocrisie, ce qui la rendit bientôt soupçonneuse. Comme l'avait vu Hannah Arendt, la terreur anticipe les états totalitaires en ce qu'elle refuse à l'individu une intériorité où pourraient se dissimuler des sentiments contre-révolutionnaire. Elle conteste la distinction entre le citoyen d'une part et la personne privée de l'autre. Elle fait la chasse aux traîtres cachés. Les états totalitaires, eux, verront partout des saboteurs bientôt. Mais le grand tournant, c'est celui qu'avait décrit le grand critique littéraire américain Lionel Trilling dans son livre « Sincérité et authenticité », où il déroule le passage progressif de la première à la seconde. La revendication à l'authenticité serait en effet une des caractéristiques de notre âge moderne. Alors la sincérité a des significations différentes selon les cultures nationales, écrit Trilling. Elle signifie, je cite, s'exprimer sans duplicité ni mensonge pour l'anglais, elle consiste à dire la vérité sur soi-même pour le français. Jusqu'au XVIIIe siècle, estime-t-il, la vie sociale en Occident avait été marquée par un idéal de sincérité, c'est-à-dire une forme d'honnêteté dans le respect des formes héritées qui favorisait la vie sociale. La sincérité, écrit-il, consistait à épouser son rôle social au point de se confondre avec lui. Une telle harmonie entre soi et le monde impliquait évidemment le refus du mensonge. Mais le maniaque de la sincérité, dont Molière a fait le personnage de son fameux misanthrope, apparaissait en tout cas au XVIIe siècle comme un être inadapté à sa fonction sociale. Ainsi, lorsqu'Alceste proclame sa fameuse devise « Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur », son ami Philinte lui représente les perturbations qu'une telle vertu entraînerait pour la société de cour tout entière. L'authenticité, Trilling la voyait faire ses débuts en fait chez Diderot et précisément dans le personnage du neveu de Rameau. Ce personnage, écrit Trilling, met à nu l'histrionisme exigé de chacun d'entre nous par la société moderne, qui distribue et gère les positions et les rôles sociaux. La société moderne est donc fondée sur un principe d'insincérité. Mais c'est chez Rousseau que s'épanouit pour la première fois l'aspiration moderne à ce qu'on appelle aujourd'hui l'authenticité. C'est l'expression d'une originalité individuelle profondément asociale, parce qu'elle est sans concession, et c'est bien sûr l'origine de notre authenticité actuelle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette passionnante chronique sur l'authenticité. Est-ce que demain vous arriverez encore
oui,
à nous en proposer
sur l'authenticité politique, vous allez voir.
Ah, formidable. Merci beaucoup Brice Couturier.